Bonsoir, autre radio, autre culture, émission également diffusée sur 6e Paris Jazz. Ce soir, nous sommes dans l'archéologie navale, nous sommes dans l'histoire maritime et nous sommes à Montréal. Alors pour cela, je reçois et j'ai la joie de recevoir Brad Leven. Bonsoir Brad.
Bonsoir Marion.
Alors Brad est professeur d'archéologie à l'Université de Montréal. C'est ça ?
Oui, depuis 2001.
Depuis 2001. Et j'ai, qui ne va pas jouer le rôle de Candide, parce que c'est quand même un expert en architecture navale, surtout du XVIIe siècle, nous avons ici Michel Desflers. Bonsoir Michel.
Bonsoir Marion.
Michel qui est aussi un de mes amis et qui est historien et archéologue. Et c'est lui qui est aussi dans le projet du Jean Bart, un bateau du XVIIe siècle. Enfin, qui reprend la construction d'un navire du XVIIe siècle. C'est ça ?
En effet.
Voilà. Brad, moi je voulais qu'on parle un petit peu de ce que c'était l'université justement au Québec par rapport à l'université française. Est-ce qu'il y avait des centres comme le CNRS ? Comment tu t'insérais au niveau de l'architecture navale dans ton travail de professeur à l'université de Montréal ? Donc je voulais un petit peu qu'on parle de tout ça et qu'on débatte avec Michel qui lui aussi connaît bien ce qui se passe au CNRS et à l'université française. Et donc on va être assez critique. Voilà, tu es d'accord.
La première chose que j'ai apprise en arrivant à l'Université de Montréal, c'est que je devais faire une demande de subvention de recherche comme nouveau chercheur. J'avais accès à certains fonds de nouveaux chercheurs. Et donc, mon arrivée était tout de suite très occupée avec ces demandes. Donc, en effet, une prof dans une université nord-américaine doit diviser son temps, grosso modo, entre trois types de tâches. L'un étant l'administration de ce que nous appelons le département, dans mon cas, le département d'anthropologie. Ensuite, une partie des tâches concerne l'enseignement. J'enseigne quatre cours par année. Un cours se rencontre une fois par semaine et dure un trimestre. C'est-à-dire, chaque semaine, je donne deux cours. Et la troisième partie est la recherche. La recherche n'est toutefois pas acquise. On doit, pour mener la recherche, on doit avoir une subvention. Donc, on fait une demande externe à nos organismes de recherche qui sont soit sur le plan canadien, soit sur le plan provincial au Québec. Et le taux de réussite est environ 35 à 40%. Donc, les profs qui obtiennent les fonds de recherche peuvent mener des projets de recherche. Donc, il y a une espèce de concurrence qui se fait entre chercheurs.
Est-ce que ce sont des fonds d'État ou vous avez aussi droit à des fonds privés, à la recherche de fonds privés ? Comment ça se passe ?
La majorité des fonds sont les fonds d'État. Je vous donne l'exemple. Si je fais une demande pour un projet de recherche sur 3 ans auprès du Conseil des recherches en sciences humaines et je demande 150 000 $ sur 3 ans, ils vont me donner peut-être 120 000. Et donc c'est réparti au rythme de 40 000 $ canadiens par année. Comme cela, et je l'utilise pour engager les étudiantes. C'est toujours une dépense très noble. Je l'utilise pour les frais de déplacement, les frais de matériel, de production, de location d'un logement sur les lieux de travail, dans le cadre d'un projet archéologique, pour la production des rapports, pour mes voyages au colloque, parce que la diffusion des résultats est très importante, et ainsi de suite. Donc, ce sont des fonds d'État qui vont à cela. Pour les fonds privés, je pense que chaque prof contribue un peu de lui-même. Il y a certains qui font une spécialisation des fonds privés. C'est cependant quelque chose qui se passe plutôt aux États-Unis, où il existe des fondations très importantes auxquelles les chercheurs peuvent avoir accès, toujours selon les mêmes règles de compétition. Au Canada, c'est plus rare. Je pense que dans mes fonds de recherche, j'ai peut-être au fil des ans bénéficié d'un fonds privé de 2 ou 3 000 $ une fois. Ce n'est pas beaucoup.
Michel, est-ce qu'on a à peu près ce système-là en France ? Est-ce que tu le vois, toi, dans ton travail, le système dans lequel est Brad, de rechercher ses propres fonds et autres ?
C'est quand même un peu différent, parce que dans le mesure où c'est le laboratoire qui va rechercher donc des fonds. Il reçoit donc des fonds déjà de l'État.
Laboratoire, c'est-à-dire laboratoire CNRS.
Laboratoire CNRS.
Oui, oui.
Mais bon, là, c'est un laboratoire, donc on appelle ça une unité mixte, où en fait on accueille également, donc, outre des chercheurs du CNRS, également des chercheurs d'université, donc des professeurs d'université, qui assument également donc, des cours à l'université et font également de la recherche, donc au sein d'un laboratoire CNRS, comme le CRHQ. Donc il y a une part de fonds qui vient directement donc du public, hein, donc de l'État, une partie des fonds également qui vient donc de la région ou bien même de la ville de Caen. Mais essentiellement, ce sont quand même des fonds qui viennent de l'État.
Qui viennent de l'État, oui. Il n'y a pas des recherches au niveau de fonds. Il n'y a pas des professeurs qui cherchent des fonds privés
non,
pour essayer.
Je n'en connais pas.
Il n'y en a pas. Est-ce que à Montréal, tu as une équipe, tu diriges une équipe universitaire qui est payée par l'université?
Non.
Non.
Non, vraiment pas. Les profs vont des fois se constituer en équipe de recherche, c'est-à-dire les équipes de chercheurs. Universitaires peuvent faire une demande conjointe. C'est très difficile. Les équipes sont peu nombreuses et je crois que le taux de réussite est peut-être autour de 20%. Toutefois, il existe des centres. Il existe un centre de recherche qui s'appelle le Centre en Arts et Traditions, qui va depuis longtemps et qui regroupe une trentaine de professeurs, entre autres à l'Université Laval, l'Université du Québec à Montréal et l'Université de Montréal. Un centre comme ça va avoir l'argent pour payer les locaux des étudiants, pour payer un administrateur, pour gérer les projets. Donc ce sont des fonds d'infrastructure et non pas directement pour la recherche.
Et chez, par exemple, à Caen, comment ça se passe? Alors, c'est pareil, non? De toute façon, vous avez les infrastructures qui sont les infrastructures de l'État.
Oui, nos infrastructures sont les infrastructures de l'université. Donc, en plus, donc, on achète du matériel, essentiellement un hôpital informatique, des immobiliers, donc, tous les outils qu'il nous faut pour travers notre recherche. Donc, c'est essentiellement donc, des matériels qui viennent protéger de fonds de l'État également.
Et comment s'insèrent les étudiants dans les pôles de recherche? Est-ce que ce sont des étudiants qui sont payés, qui ont des bourses? Comment ça marche?
Ce sont des étudiants donc, soit qui ont des bourses pour faire un type de recherche, soit donc des étudiants donc, qui travaillent avec un professeur. Donc c'est divisé, donc, je prends le centre du centre de recherche quantitative. Donc nous avons un axe secondaire mondial, un axe qui concerne donc, l'histoire urbaine, un axe concernant l'histoire rurale et un axe sur la culture également. Et donc selon les axes, donc, on a des professeurs qui vont prendre des étudiants donc, en maîtrise ou bien en thèse, qui vont donc, les mener donc, sur une recherche particulière. Et certains donc, ont une bourse d'étudiants, ou d'autres, par contre, n'en auront pas.
Brad, je reviens à toi. Comment se passe, justement, quand tu choisis tes projets de recherche? Tu les choisis par rapport à une politique universitaire qui vous est obligée? Je veux dire, vous devez travailler sur un tel type de programme, sur telle région ou autre? Ou alors, tu as toute liberté? Comment ça se passe?
J'ai beaucoup de liberté. Il n'existe pas d'axes qui sont donnés à l'avance pour guider les chercheurs. Chaque chercheur va en fait développer sa propre spécialisation dans le domaine géographique, dans la période qui l'intéresse, aussi avec l'approche qu'il va préconiser. Donc cette liberté est très grande. Évidemment, tout ce qu'on fait s'inscrit dans quelque chose qui se fait ailleurs aussi. Donc ce n'est pas l'éclatement total et on prend quand même soin de suivre les tendances et voir où il y a déjà un certain corpus de connaissances pour pouvoir comprendre ce qu'on fait. Donc ces champs se développent de cette manière, mais les profs s'inscrivent dans le champ où ils veulent. Par rapport à mes intérêts, l'université me demande quand même d'enseigner en archéologie de la période historique. Dans la période historique, pour nous, la période après l'arrivée des Européens. Je m'intéresse à la fois à l'archéologie terrestre et à l'archéologie maritime. Donc quand j'étais engagé, l'université m'a demandé de donner les cours en archéologie terrestre. C'était la description des tâches qui étaient conçues avant de m'engager. Et donc c'est ce que je fais. Par contre, quand j'ai demandé si je pouvais ajouter un cours en archéologie maritime, à la fois au premier cycle et au deuxième cycle, l'université a répondu que c'était une excellente idée. Et ensuite, quand je fais une demande de recherche en archéologie maritime, je suis moi seul le juge de la pertinence de cela.
Est-ce qu'au Canada, il y a, dans les universités, il y a plusieurs enseignements sur l'archéologie maritime ou tu es le seul?
Quand je regarde ce que font les autres profs en archéologie, je vois d'abord que la grande majorité s'intéresse à la période préhistorique ou à l'archéologie, on peut dire, mondiale. Nous avons beaucoup de spécialistes à l'Université de Montréal et ailleurs dans l'Est canadien, des spécialistes en Amérique du Sud et au Mexique. C'est un grand domaine. Donc, mes collègues partent chaque automne, chaque été pour les fouilles dans les Andes ou au centre du Mexique. Pour la période historique, nous sommes beaucoup moins nombreux. Nous sommes peut-être 10% du nombre d'archéologues, peut-être 20%. Et en archéologie maritime, je pense que, avec cette spécialisation, nous sommes peut-être 2 ou 3. Les autres sont à Vancouver, à Toronto, à Terre-Neuve. Donc il n'y en a pas beaucoup, non. C'est un petit domaine.
Oui, c'est ce que je vois, oui.
C'est un petit domaine et les liens qu'on tisse sont surtout avec les collègues à l'étranger. C'est peut-être entre autres pour ça que les gens qui font de l'archéologie maritime s'y intéressent, parce qu'ils aiment suivre les trajets des bateaux à travers les océans.
Et vous avez des partenariats avec, par exemple, l'Université de Texas ou celle de Floride? Il y a des choses qui se passent ou pas?
Beaucoup moins avec la Floride.
Ouais.
La Floride est très orientée vers l'exploration de ses propres eaux, qui sont très riches en patrimoine submergé. Tandis qu'au Texas, c'est l'Université Texas A&M, dans une petite ville qui s'appelle College Station, où se trouve un des centres les plus importants de l'archéologie maritime au monde. Ce centre regroupe 6 profs qui ne font que ça, et seulement au deuxième et au troisième cycle, avec des beaux laboratoires, avec une vingtaine d'étudiants qui entrent dans le programme chaque année. Donc c'est un centre d'expertise qui est très intéressant. Il existe un autre comme ça à Southampton, en Angleterre, où je crois que c'est de 12 à 15 étudiants commencent chaque année un programme d'un an en archéologie maritime. Donc qu'est-ce qu'on peut faire en un an? On ne développe pas les chercheurs avec des connaissances approfondies, mais on développe un corps de connaissances pratiques sur le terrain. On développe une connaissance sur la législation qui est propre au patrimoine submergé. On développe certaines méthodes de relever sous l'eau. Mais on ne va pas avoir émergé de ces programmes des chercheurs comme, par exemple, on voit au Texas où les étudiants sont sur place pendant 2, 3, même 10 ans s'ils font les 2 cycles à la même université. Donc ce sont les 2 centres qui sont peut-être les plus importants, mais Texas A&M produit le plus grand nombre de chercheurs.
Nous, je sais qu'en France, on a des, entre guillemets, des pôles maritimes. Il y en a un à Lorient et il y en a un également à Caen.
Oui, ce sont des pôles plutôt des axes maritimes. À Lorient, donc, il y a carrément un laboratoire d'histoire maritime, mais qui n'est pas axé sur l'archéologie, mais plutôt sur l'histoire.
Sur l'histoire, oui, tout à fait.
Et de même à Caen, donc, au laboratoire où je travaille, donc, au centre de recherche sur les datatives, nous avons aussi un axe maritime dirigé par André Zisberg, mais qui s'occupe essentiellement de l'histoire moderne.
Oui, parce qu'en France, on a le problème, c'est que l'archéologie maritime est synonyme ici, pour beaucoup de gens, d'histoire antique, d'archéologie antique. Donc c'est vrai que à peu près 70% des recherches en France sont axées sur l'archéologie navale antique. Et très très peu sur le médiéval et le post-médiéval, en fait, tout ce qui est toute la période historique. Et on a le problème, c'est qu'en fait on n'a qu'un cours, je crois, dans toute la France, qui est donné par Eric Ritt, donc c'est à Paris 1, sur 6 mois. Et c'est 1 heure, je crois que c'est une heure par semaine, c'est ça? Non, 2 heures par semaine. Non, c'est même pas ça. Il y a 10 cours dans l'année de 2 heures. Voilà, c'est tout. On n'a que ça au niveau architecture navale pure. Voilà, tout ce qui existe en France. Alors pourquoi on a un problème comme ça en France, nous?
Je sais bien.
Bonne
question. J'avoue que c'est un sujet qui, bon, j'aurais du mal à aborder et créer une réponse immédiate. Mais c'est vrai que je pense que c'est aussi peut-être un problème en politique de volonté de vouloir développer des laboratoires d'archéologie navale ou d'archéologie sous-marine en France. Nous avons donc le DRAS, donc le département de recherche archéologique subaquatique sous-marine, qui effectue donc de nombreuses recherches de fouilles sous-marines, notamment une des plus grandes connues actuellement, c'est la fouille donc, des épaves de la Natière à Saint-Malo. Et également, donc, les grandes fouilles qui ont lieu à Saint-Valo, sur les épaves de la bataille de la Hougue. Mais autrement, donc, nous n'avons pas donc, de laboratoire dédié à l'étude donc, de l'archéologie sous-marine, des épaves et de l'architecture navale.
Tu ne te sens pas seul, Brad, d'être tout seul dans ton université à travailler sur l'architecture navale et l'histoire maritime ?
Je suis très habitué à avoir un réseau qui est plus grand que mon université. Par rapport à ce problème que vous avez évoqué de la pénétration de l'archéologie maritime dans les universités, je crois qu'il y a une raison qui nous a limités au Canada, du moins, qui est le coût de la recherche. Pour faire une recherche subaquatique, par rapport à une recherche sur Terre, il y a des coûts qui s'ajoutent très rapidement. D'abord, il faut avoir une plateforme de recherche qui veut dire un bateau. Ensuite, il faut avoir le matériel de plongée. Et ensuite, il faut avoir aussi l'essence pour faire tourner cela. Très souvent, un projet subaquatique peut tourner seulement 2 ou 3 semaines par année. Et le nombre d'heures qu'on peut passer en présence du site, parce qu'un plongeur peut travailler seulement une partie de la journée par jour, selon la profondeur, ça peut être aussi peu que 50 minutes. Donc le travail avance beaucoup plus lentement. Dans le rapport entre les coûts de se mettre en place, en équipe, et de retirer les données est très élevé par rapport à ce qu'on considère normalement comme une rentabilité de la recherche archéologique. Donc il y a cette difficulté, et je crois que plusieurs chercheurs ont buté contre cela. Il y a aussi une autre difficulté qui est peut-être plus grande que le Canada. Ce que je vois en France, c'est que vous avez les axes qui sont déterminés. Et alors que dans le système anglo-saxon des universités, les profs peuvent déterminer leur propre champ de recherche. Alors que si on regarde autour du monde pour voir où sont les programmes ou en archéologie maritime, ou les profs qui se spécialisent en cela, c'est dans le monde anglo-saxon. Le système se prête mieux au développement d'un champ comme cela. Pourquoi précisément, je ne sais pas, c'est peut-être en raison de cette différence entre les axes de recherche déterminés au plan national et la capacité des chercheurs individuels de frayer leur propre chemin, tant bien que mal, et il y a beaucoup de mal sur cette route, mais en même temps, ils arrivent à rencontrer ce qu'on perçoit comme une demande pour ce type de formation. C'est sûr que je ne manque pas d'étudiants à l'Université de Montréal. C'est plutôt ma capacité de les former qui me limite. Donc il y a une différence de système qui fait en sorte qu'en dehors du monde anglo-saxon, en dehors du monde anglophone, il y a une difficulté d'insertion de l'archéologie maritime dans le système universitaire.
Quelle est la relation avec Parc Canada et l'université ? Est-ce qu'il y a symbiose entre les deux ou ils marchent totalement indépendants ? Est-ce que Parc Canada fait appel à l'université pour avoir des étudiants pour travailler avec eux ? Comment ça se passe ?
Parc Canada est l'organisme d'État qui s'occupe du patrimoine subaquatique un peu de la même manière que le DRASM le fait en France. Parc Canada est une boîte centralisée qui regroupe environ 16 ou 17 personnes qui sont pour la plupart des gens avec une formation en archéologie subaquatique. Les trois dernières personnes qui ont été engagées sont mes anciens étudiants.
C'est mes anciens fouilleurs aussi.
Oh, c'est vrai, hein? C'est vrai, on les connaît. Donc le monde est petit.
Ouais.
Et donc les contacts sont informels et très fréquents. Il y a des occasions très souvent de partager un repas ou une soirée et les informations circulent. Sur le plan plus formel, Parc Canada répond aux demandes formelles pour les projets. Et l'Université de Montréal peut se mettre en liste d'attente pour un projet. Actuellement, il y a un projet de collaboration qui se développe autour d'un site d'épave de la période de la bataille des plaines d'Abraham à Québec, où un nombre de canons a été trouvé dans le fleuve Saint-Laurent, à l'endroit où 3 navires français ont fait naufrage. Donc c'est un projet qui, les épaves existent autour de ces canons, ce sera très vite un site d'importance nationale, auquel cas Parc Canada est automatiquement impliqué. Donc cela veut dire qu'il y a une collaboration qui se pointe entre l'Université de Montréal et Parc Canada. Donc cette collaboration peut être articulée de plusieurs manières. Elle peut cette articulation peut avoir une composante de recherche qui serait menée par l'Université de Montréal, une composante de support technique menée par Parcs Canada, ou inversement, nous avons tous les deux les capacités de faire l'un ou l'autre. Sauf, il est clair qu'on ne peut pas chacun supporter un projet de plusieurs mois de travail par année pour des raisons financières. Donc une collaboration permet de compléter les limites l'un de l'autre.
Au niveau de l'université de Caen, par exemple, ou au niveau du CNRS, bon, d'abord, avant de poser cette question-là, y a-t-il une ouverture à l'architecture navale vers l'archéologie sous-marine ?
Au niveau de l'université de Caen, donc, il n'y a pas vraiment d'enseignement sur l'architecture navale et sur l'archéologie navale proprement dite. Il y a des cours sur l'histoire maritime, mais ça reste donc essentiellement des cours généraux à ce niveau-là.
Et donc, dans ces cas-là, il n'y a aucune relation avec le drasme ?
Il n'y a pas de relation avec le drasme proprement dite, en fait. Donc, ne serait-ce que pour développer donc, des axes de recherche concernant l'architecture navale ou l'étude des navires, ou même l'étude des relations commerciales qui peuvent exister au XVIIe, XVIIIe siècle, par exemple. Pour l'instant, donc, ça n'a pas été développé.
Quels sont tes projets au niveau de l'université là ? Quels sont les deux projets phares que tu as en main en ce moment ? Ou que tu as envie de travailler, ou que tu as déjà commencé et tu es en plein dedans ?
Oui, quand j'ai commencé à l'Université de Montréal, j'avais en main quelques projets en archéologie maritime, entre autres avec toi-même.
Oui, c'est vrai.
Sur une épave du 15e siècle, qui est, semble-t-il, d'origine basque, mais qui a trouvé des moyens de s'échouer en Méditerranée. Et je pense que la raison pour laquelle tu m'as invité à participer à ce projet était parce que je connaissais déjà la construction navale basque du siècle plus tard, du XVIe siècle,
ouais,
à travers les fouilles à Red Bay que Parcs Canada a menées pendant plusieurs années.
Alors pour nos auditeurs, oui, tu peux expliquer ce qu'est un petit peu Red Bay, qui a été exceptionnel au niveau de la fouille et au niveau du bateau aussi.
Red Bay est loin des sentiers battus. Red Bay se trouve sur la côte du Labrador, dans le détroit de Belle-Île qui sépare Terre-Neuve et le Labrador. Donc sur la côte nord de ce détroit, entre 1543 et 1579 environ, il y avait une industrie baleinière très développée qui était menée par les Basques, tantôt du côté espagnol, tantôt du côté français. Donc il y avait une rivalité entre les deux côtés, à cette époque, de rivalité entre les deux pays, la France et l'Espagne. Avec l'appui de l'État, les Basques de Guipuscoa, donc du côté espagnol, ont enfin eu le dessus, ont envoyé parmi les plus grands navires qu'ils construisaient à cet endroit pour faire la chasse à la baleine. Ensuite, au XVIIe et au XVIIIe, XIXe siècle, Red Bay est devenu un lieu très peu peuplé, de sorte qu'il y a eu très peu de développement. Et quand ces premières épaves ont été trouvées, dans les années 70, on ne savait pas encore que deux ou trois autres épaves seraient retrouvées dans chacun des petits ports de cette période. Ce sont tous des épaves du XVIe siècle et qui sont dans un état de conservation formidable. On voit sur le bois les traces d'outillage comme s'ils ont été faits hier. Le seul danger, c'est que ces navires vont sombrer dans très peu d'eau et à l'hiver, les glaces viennent et vont détruire les superstructures. Mais là, sous la ligne de flottaison, les navires sont souvent intacts. Donc c'est un laboratoire de l'architecture navale du XVIe siècle. Et Parcs Canada, en reconnaissant l'importance de ces sites, d'abord fait classer Red Bay et d'autres havres de ce petit bout de la côte comme des sites d'une importance mondiale et qui sont classés sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Une de ces épaves était une épave d'une petit baleinier d'environ 250 tonneaux qui était construit à Passarès, c'est-à-dire à côté de Saint-Sébastien. Et ce navire s'appelait le San Juan. Les fouilles intensives sur ce site, sur une période d'environ 7 ans, a fait avancer les connaissances en archéologie subaquatique sur la construction navale de cette période, sur les méthodes de fouilles subaquatiques, entre autres la technique de démonter les navires sous l'eau et documenter les pièces une à une en surface, que nous avons fait aussi à Cavalère. et restituer la forme du navire à partir de ces dessins à l'échelle d'une dixième, et en faire l'étude à la fois architecturale et sur le plan des techniques de construction. Donc c'est une site qui a fait école sur le plan des connaissances et qui a formé une génération d'archéologues au Canada. Beaucoup d'échanges avec les Européens aussi, des Français, des Espagnols, plusieurs Basques, des Anglais sont venus. Donc c'est un site qui est un point de ralliement pour les archéologues de cette époque. Je suis arrivé à la fin de cela, après les fouilles, au moment, juste à temps pour faire l'analyse. Je ne suis même jamais allé à Red Bay moi-même, même si j'ai passé 5 ans de ma vie dans l'analyse de cette montagne de documentation. J'avais cela en main quand je suis arrivé à l'Université de Montréal. C'est pour ça que je demandais si je pouvais continuer cette passion pour l'archéologie maritime et l'architecture navale de la Renaissance. Maintenant, je travaille aussi en archéologie terrestre. Donc, je forme les étudiants sur un site qui est le site de fondation de Montréal. Montréal était fondé en 1643. Ce site est un site très complexe avec 2,5 mètres de sol archéologique accumulés sur le sol naturel. Et nous fouillons à travers ces niveaux sans l'aide d'une rétrocaveuse pour enlever les niveaux de ce que certains considéreraient les moins importants du 19e et du 20e siècle. Donc les étudiants apprennent l'évolution de la culture matérielle à rebours à travers 4 siècles. Donc c'est un site qui est très riche, qui montre aussi les premiers contacts entre Français et Amérindiens avant la fondation de Montréal, dans la première moitié du 17e siècle. Ça, c'est un projet qui est mené en lien avec le musée Pointe-à-Calière, qui assure une certaine publicité aussi pour ce projet. Le musée tire sa part des crédits du projet en publicisant les données. Donc, il y a un site web, il y a des publications, beaucoup de contacts avec les journalistes qui me tiennent occupé régulièrement.
Ah oui?
Oui, donc sur le plan local, c'est un projet qui a un certain profil en raison de la participation du musée. Mon autre projet est beaucoup plus tranquille, qui a lieu dans une petite ville à l'est de Québec, donc c'est-à-dire dans l'estuaire du Saint-Laurent, dans la vallée d'une petite rivière qui s'appelle le Gouffre. Donc, il s'appelle la rivière du Gouffre parce que dans le Saint-Laurent, à l'entrée de cette rivière, il y a une énorme dépression où la profondeur du fleuve triple à environ 75 mètres. Et les marins de l'époque, dès l'époque de Jacques Cartier et de Champlain, appelaient ce trou le Gouffre. Donc la rivière qui se jette à cet endroit, c'est ce qu'on s'appelle le Gouffre. Dans la vallée du Gouffre, qui est une petite échancrure dans un paysage autrement assez montagneux, les gens vivent un peu de l'agriculture, un peu de la foresterie et un peu des activités maritimes. Donc un peu de tout, comme à l'époque préhistorique. Et ce qui m'intéressait dans cette vallée était qu'au début de la colonie, la marine française a établi une industrie de goudron pour calfater les navires à partir des pinèdes, c'est-à-dire des forêts de pins rouges qui étaient nombreux dans cette vallée. Donc, il y a une technologie qui date de l'époque de Colbert, qui était fondée dans le même esprit de l'industrie du goudron dans les Landes, c'est-à-dire sur une base industrielle où on coupait beaucoup d'arbres pour en faire du goudron.
C'est amusant parce que c'était contraire à la politique de Colbert, justement, d'avoir une industrie qui se formait au Québec, puisque lui avait l'idée que tout soit fait en France et tout soit exporté vers les colonies. Donc, c'est étonnant de voir ça.
C'est une observation intéressante. Et je n'avais pas réfléchi à cette contradiction qui préoccupe d'ailleurs beaucoup de gens qui étudient la colonie et qui voient cette différence entre la capacité manufacturière du métropole et le manque de cela dans la colonie. On voit cependant sous certains des intendants de la Nouvelle-France, entre autres Jean Talon à l'époque de Colbert et Gilles Hocquart à l'époque de Fleury. Donc Fleury en France, est le néo-colbertiste. Donc ces deux intendants en Nouvelle-France et les ministres en France ont un certain lien avec la bourgeoisie montante en France. Cette bourgeoisie est concentrée dans les ports et qui est très orientée vers la promotion des industries maritimes en appui de la navigation et du commerce. Donc, sous cette politique, la bourgeoisie arrive en effet en France, comme dans la colonie, à intéresser l'État dans les industries maritimes, entre autres dans la production de goudron. Dans la colonie, il y a aussi les premières brasseries. Donc, c'est pour la bière qui va servir aux équipages dans les voyages de long cours aux Antilles et en France. On voit aussi sous Talon et Colbert l'installation des premiers chantiers navals du roi, une industrie des chanvres et d'autres industries qui sont liées à la navigation. Donc c'est dans cette foulée de promotion de la navigation.
Et tout ça au XVIIe siècle ?
Tout cela dans les années, autour des années 1665 à 75. L'expérience n'est pas une réussite immédiatement. Après le départ de l'intendant Jean Talon, la plupart de ces industries périclites ils vont même disparaître dans une ressac contre la bourgeoisie qui est vue comme étant parvenue, trop ambitieux et autres. Et leur remontée en force au XVIIIe siècle coïncide avec la vague de néocolbertisme en France.
Alors ça, on a, au niveau français, il y a... Parce que moi, je me suis beaucoup intéressée et travaillée dans les fouilles préventives. Et je sais que pour toutes les périodes historiques, en règle générale, elles sont balayées justement par les tractopelles. On les enlève. Et si on arrive à garder un 15e ou un 16e siècle, c'est déjà assez magnifique. Mais en général, ce sont des périodes qui sont supprimées systématiquement et pas fouillées. Il semblerait que depuis quelques années, il y a quelques archéologues qui sont en train de crier au scandale, mais ils sont relativement rares. En revanche, je me posais la question toujours dans ton lieu de vie qui est Caen, au niveau de l'université et du CNRS, est-ce que, en dehors de l'archéologie navale dont personne ne s'occupe, finalement, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Oui. Est-ce qu'ils ont quand même un intérêt pour ce qui est l'archéologie terrestre ?
Tout à fait. Donc, à côté donc, du laboratoire donc, du CRHQ, nous avons le CRAM, qui est un laboratoire du CNRS et un laboratoire donc, d'archéologie, qui travaille donc, sur les périodes médiévales et post-médiévales.
Oui, ils sont quand même, ça y est, ils se sont quand même ouverts.
Ça fait depuis très longtemps qu'ils travaillent sur ces périodes-là, quand même. Et notamment, donc, j'ai un collègue qui travaille à Charbourg sur l'étude de l'ancienne abbaye qui existait près de l'ancien port de commerce, donc le port des transatlantiques. Donc, étude de l'abbaye, reconstitution de l'abbaye, tout un travail donc, avec l'image de synthèse qui se fait actuellement.
D'accord. Est-ce qu'ils s'intéressent, ils peuvent s'intéresser, comme le fait Brad, par exemple, sur des industries du XVIIe siècle qui ont pu exister ?
Jusqu'à présent,
parce qu'on parle de Cherbourg, bon, il y a l'arsenal.
Jusqu'à présent, ça ne s'est pas fait, mais je pense qu'ils pourraient le faire, oui. Actuellement, c'est quand même des axes de recherche qui commencent à se développer et qui sont pris en compte.
Il ne va pas y avoir, là je suis toujours en aparté, il ne va pas y avoir une remise en question au niveau des recherches de votre propre département du CNRS, qui est très porté sur la guerre de 40, sur cette Deuxième Guerre mondiale. Il ne va pas y avoir des problèmes avec justement la nouvelle loi sur les archives qui interdise la sortie des documents de moins de 70 ans.
Ça, pour l'instant, ce n'est pas l'ordre du jour. Donc, on a quand même récupéré pas mal de documentation de la Seconde Guerre mondiale et de la Première Guerre mondiale. Et pour l'instant, donc, certains fonds d'archives sont totalement ouverts.
Oui, et... parce qu'il y en a, ils ne devraient plus être ouverts.
Voilà. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, je ne sais pas où ça en est actuellement, de ce genre de choses. Mais bon, je sais qu'il y a eu pas mal de tollés à ce niveau et... probable que ce ne sera peut-être pas fait.
C'est fait, puisque cet été, il y avait au niveau des archives, par exemple, de Toulon et autres, il y avait des encarts en disant que toutes les archives de moins de 70 ans ne pouvaient plus être données au public. Non, je pensais à ça, parce qu'il devait y avoir des chantiers en Normandie, de chantiers de prisonniers de guerre de la guerre de 40. Et ils avaient beaucoup de mal à trouver justement des archéologues qui voulaient bien travailler sur ces périodes-là, qui sont donc des périodes très 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 récentes. Voilà, et c'est pour ça que je posais la question à Michel.
Parce que je tiens du moins pour l'axe secondaire mondial que tout le monde travaille avec, en collaboration avec eux pour la réalisation d'un atlas secondaire mondial, je sais qu'ils arrivent encore à travailler sur ces fonds-là. Peut-être par dérogation
oui,
ou d'autre chose.
Peut-être. Bon, on en revient à tes programmes de recherche. Alors, comment ils sont vus par les étudiants? Est-ce que les étudiants sont très intéressés, Brad? Ils sont passionnés?
Oui. J'ai des étudiants qui sont très motivés, ont beaucoup d'énergie, qui parfois sont même très bons. Et ce qui est parfois difficile, c'est que les étudiants s'intéressent au premier cycle à toutes les branches de l'archéologie. Donc, arrivés à la maîtrise, où ils doivent se spécialiser un peu, il y a certains qui optent pour la période historique, pour le domaine maritime, ou bien ils vont opter pour un site dans les Andes, ou sur le néolithique, ou même plus en amont que ça dans le passé.
Vous pouvez aller aux Esquimaux à Terre-Neuve.
Exact. Et parmi les 6 profs du département, c'est la course folle pour les meilleurs étudiants, des fois. Et tout en laissant aux étudiants le choix de faire ce qu'ils veulent, parce que c'est le meilleur garant de terminer leur maîtrise, qu'ils choisissent ce qu'ils veulent. Donc, des fois, on voit partir un étudiant qui est très prometteur, mais qui s'intéresse à plusieurs branches de l'archéologie. Comme mes collègues, les autres profs, sont mes collègues, cette petite concurrence à laquelle on se livre chaque année pour les étudiants se fait plutôt dans l'amitié et dans, des fois, un peu à la blague aussi. Et on pousse les étudiants à décider ce qu'ils veulent faire. Ce qui arrive très souvent, c'est que quand on a un projet de recherche qui est très prenant, où on a besoin d'aide et les possibilités d'une mémoire ou d'une thèse sont grandes, à ce moment-là, on va activement solliciter un étudiant. Et auquel cas, l'étudiant, on sollicite toujours le maire, vont décider de quel côté pencher sur la base des possibilités qui sont à faire à l'UL. C'est une relation qui est à la fois très proche. Mes étudiants me tutoient. À force de passer plusieurs semaines sur le chantier, les rapports de vouvoiement commencent à être pas très naturels. Donc il y a ce rapport très facile. J'ai un laboratoire qui est peuplé d'étudiants qui arrivent et qui mangent là. Et souvent à midi, les profs vont manger avec les étudiants. Donc ces rapports sont assez faciles et stimulants. Évidemment, sur un chantier de fouilles où on passe plusieurs semaines, dans un chalet sur la côte nord du Saint-Laurent, on endure des conditions d'insectes et de pluie et de chaleur ensemble. Et ça aussi rapproche les profs et les étudiants au point où les rapports de premier nom et de tutoiement sont parfaitement naturels.
Est-ce qu'une fois qu'ils ont passé soit ce qui correspond à la maîtrise ou à la thèse, est-ce qu'il y a un intérêt pour le professeur d'arriver à placer ces étudiants? Est-ce que vous avez cette volonté dans les professeurs canadiens?
Je pense que c'est l'aboutissement naturel d'un programme d'études. L'université n'existe pas entièrement pour soi. L'université s'intègre dans une dynamique sociale et économique. Et les étudiants sont là, à l'université, pour acquérir les outils, pour se former et avoir une carrière intéressante par la suite. Il est clair qu'un prof est, par ses contacts et par sa position de prof, il est tremplin d'une université ou à la carrière. Et on les suit de très proche, oui. Mm-hmm. Oui.
Il faudrait que l'université française en prenne de la graine, non? Chez nous, c'est pas ça du tout. C'est justement un petit peu le problème qu'il y a actuellement, c'est de se retrouver avec énormément d'étudiants avec des cursus très remplis, avec des contrats, ils ont eu des contrats pendant leurs études et autres, ils ont des thèses avec des mentions très bien, félicitations du jury, mais les professeurs ne s'occupent plus d'eux, le devenir ou le futur de l'étudiant ne les intéresse plus. Donc c'est à l'étudiant d'essayer de se prendre des contacts, etc. Et ils ont pratiquement beaucoup n'ont aucune aide de leurs professeurs ni de leur université. Et les réseaux ne sont pas créés. Ce que j'essayais d'expliquer une fois, le problème que l'on a dans les universités, c'est que c'est tellement fermé qu'un étudiant qui travaille dans une branche d'histoire maritime aura pratiquement aucun contact avec d'autres étudiants qui travaillent dans la même branche d'histoire maritime dans une autre université. Alors qu'il pourrait y avoir des espèces...
Ça commence à changer, ce système.
Ça commence à changer dans le Midi, mais il y a un maillage qui ne se fait pas, pratiquement. Et ça, c'est très difficile après pour les étudiants, pour dire, ben voilà, je viens de tel endroit où j'arrive, je voudrais travailler en telle université, en tant que chercheur. C'est très, très difficile.
On ne peut pas se permettre de s'isoler comme ça. Nos étudiants en archéologie, à l'été, sont tous employés par les compagnies privées qui sont les opérateurs archéologiques, surtout les étudiants à la maîtrise. Et donc, il y a un brassage d'étudiants de plus qu'une université, au seul Québec, et de tous les profs, et avec le milieu du travail. Et donc, je suis au courant des projets d'archéologie préventive. Je sais ce qui se passe dans la ville de Montréal, je sais ce qui se passe sur le territoire du Québec. Et très souvent aussi, ces projets qui sont menés de manière, selon la méthode préventive, vont générer des collections qui sont ensuite utiles pour la production de mémoire et de thèses. Donc j'ai intérêt à être au courant de ce qui se passe dans ce domaine. Et comme les étudiants passent de l'un à l'autre aisément, il n'y a pas vraiment de frontière entre les deux. Donc on a intérêt à savoir ce qui se passe.
On n'a plus ça, puisque maintenant on a l'INRAP, avant avec l'AFAN, qui est l'Association des fouilles archéologiques nationales, il y avait cette possibilité pour les étudiants qui étaient en maîtrise ou en thèse de rentrer à l'AFAN et de travailler pendant leur été, d'être payés, et de pouvoir travailler justement comme archéologue de base pour se faire finalement leur formation. Mais ils avaient une espèce de formation qui était payée sur le tas. Mais maintenant, c'est terminé. C'est pratiquement terminé. Puisque c'est devenu l'INRAP, c'est devenu une espèce de microcosme de 1500 archéologues qui sont engagés sur toute la France. Et il n'y a plus de possibilité de rentrer. C'est terminé.
Oui, donc, en même temps que l'INRAP assure une certaine sécurité d'emploi, pas beaucoup, en même temps, l'entrée, le niveau d'entrée est beaucoup plus difficile à atteindre. C'est que les étudiants ne peuvent pas, avec très peu de qualifications, arriver, demander un emploi. L'emploi est déjà pris.
Il y a quand même beaucoup d'INRAP qui n'ont pas de maîtrise. Faut quand même remettre les choses à leur place, à ce niveau-là.
Oui, et chez nous, la carrière moyenne en archéologie n'est pas très longue. Si l'entrée est facile, l'avancement est difficile. Donc un étudiant qui a une maîtrise ne trouve pas très intéressant de passer 5 ans comme technicien de fouille, qui est engagé pendant une autre période de travail à l'extérieur, et donc qui se trouve en chômage technique pendant l'hiver. Sans avoir la possibilité d'avancer dans la hiérarchie archéologique, c'est-à-dire de passer à ce que nous appelons une assistante, qui est l'équivalent d'une chargée d'une unité de plusieurs unités de fouilles, ou ensuite passer au rang de chargé de projet. Donc cet avancement est difficile. Donc nous formons beaucoup plus d'étudiants qualifiés qui ont une place pour l'avancement. Par contre, nos étudiants, la totalité de nos étudiants travaillent aussi en archéologie. Donc il y a un abandon des carrières en cours de route chez nous.
Oui, comme chez nous d'ailleurs.
Et oui, ce qu'on voit, c'est que les étudiants avec un diplôme de deuxième cycle en archéologie et quelques années d'expérience vont ensuite monnayer cela et changer de voie. On travaille dans un musée. Ont travaillé dans les ministères et ailleurs dans l'administration, très souvent ils ont des contacts avec toutes les branches de l'aménagement du territoire. Et ils connaissent aussi les bureaux des villes, de la province, des régions. Donc ils savent où sont les emplois. Nos étudiants ont tendance à se placer par le contact que l'archéologie leur donne à d'autres domaines dans l'aménagement du territoire.
Est-ce que le fait que le Québec soit francophone peut être un blocage, peut les freiner ?
À la limite, ça peut être un blocage. Toutefois, les étudiantes à la maîtrise, au début, vont se débrouiller en anglais. Un archéologue, par exemple, s'il veut travailler aux États-Unis, va se trouver à côté d'autres étudiants qui ont peut-être un anglais encore plus difficile que les étudiants québécois. Donc ça ne représente pas un blocage pour travailler à l'extérieur du Québec. À l'intérieur du Québec, l'archéologie se fait surtout en français. Mm-hmm. Donc ce n'est pas un blocage au Québec.
Et qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, Michel, du devenir de ces étudiants de thèse ? Est-ce que tu as quelques petits mots à dire là-dessus ?
Donc, vu que je ne suis pas dans le domaine de l'enseignement, j'ai du mal à les suivre, du moins. Mais dans l'ensemble, en fait, étudiants de thèse, ils vont chercher en fait, essentiellement des postes après au niveau de l'enseignement, pour trouver un poste dans une université ou travailler ensuite. Soit pour faire des cocos pour rentrer au CNRS, essentiellement. Il y a peu de débouchés autrement, en dehors de l'université ou du CNRS, pour des étudiants de thèse en général.
Parce que justement, tu as dû en voir qui ont terminé leur thèse depuis que tu es là-bas. Ouais. Est-ce qu'ils ont trouvé des postes facilement ?
C'est vrai qu'après, c'est rare qu'on les suive ensuite, hein, qu'on puisse voir ceux qu'ils deviennent. À part ceux qu'on peut voir qui ont pu un poste ensuite au laboratoire. Ou alors ce sont déjà des étudiants donc, qui ont déjà des postes au sein de l'université, qui préparent une thèse et ensuite vont postuler pour avoir des postes de maître de conférence ou ensuite de professeur.
Alors on reproche en France justement ce problème de régionalisation. C'est-à-dire que les professeurs cooptent leurs étudiants qui ont exactement les mêmes idées qu'eux, et du coup on arrive à avoir une espèce de sclérose de l'université, puisque les étudiants ressortant les mêmes idées que leurs professeurs, il n'y a plus véritablement de recherche, et plus de nouveaux sens, enfin de quelque chose de nouveau dans l'enseignement des universités. Alors je l'ai entendu beaucoup dans le Midi, est-ce que tu serais d'accord ?
Pour l'université de Caen, ça a tendance à être un peu également le même système, malheureusement. Donc, bien sûr, on est des étudiants donc l'université de Caen qui repostulent pour la même université. Et c'est vrai que ça a tendance un petit peu à marcher un peu en ce qui est fermé. C'est un peu le reproche également que j'ai entendu également pour l'université de Caen.
Ouais, donc j'ai l'impression que c'est un petit peu général.
C'est un peu général, en fait.
C'est un peu général en France. C'est pour ça que je te posais la question s'il n'y avait pas des problèmes de régionalisation où on ne prend que des étudiants qui viennent de l'université pour être les futurs professeurs.
Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas sur la question de la régionalisation. Nos étudiants viennent de plusieurs horizons. Et il n'y a pas vraiment une emprise d'une université sur une région. Par contre, on est tous confrontés au problème de renouvellement de la pensée, des approches, et à faire brasser un domaine qui doit son existence à la production de connaissances nouvelles. En archéologie maritime, je me rappelle que nous étions tous intéressés pendant une période à certaines très petites notions d'architecture navale, où on essayait de comprendre ce qu'était une réduction de la largeur de la varangue, par exemple. Et tout le monde était passionné par cela. Et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on était quelques spécialistes qui se parlaient entre nous, et les autres ne comprenaient rien ou ne voulaient rien comprendre, et trouvaient que les spécialistes n'offraient pas vraiment une orientation pour faire autre chose. Et le jour où j'ai vu que l'étude du matériau bois, par exemple, pouvait donner des débouchés intéressants, il y avait toute une autre cohorte d'étudiants qui sont intéressés à l'archéologie du navire, parce que le navire est fait en bois. Et donc ceux qui s'intéressent à la dendrochronologie ou à l'écologie forestière ou au paysage culturel, d'un coup voient dans un navire les données qui leur donnent accès à ces questions. Et donc, il y a un renouvellement de la pensée, mais ce n'est pas quelque chose qui va intéresser aux vieux de la vieille.
C'est certain.
C'est comme ça que les connaissances progressent. Et des fois, on se sent un peu comme... si on ne pousse pas, on se sent un peu à l'écart des dernières connaissances, oui.
C'est le problème qu'on a en France. Par exemple, en histoire maritime, on a beaucoup d'historiens maritimes qui ne connaissent pas l'architecture du bateau, qui ne connaissent pas le bateau, et qui ont tendance à le mettre complètement de côté pour ne s'occuper que de l'homme. Et quitte à oublier l'homme dans la construction du navire, en fait. Et on a beaucoup de mal, là, actuellement, pour essayer de leur faire comprendre que c'est aussi important que le diamètre d'un boulet ou que de savoir que le bateau est allé à Djibouti ou à Trafalgar, et il ne faut rien négliger. Mais là, on se bat un petit peu avec des gens qui ont tendance à regarder par la lorgnette et qui oublient d'avoir une grande vision des choses.
C'est le problème de l'archéologie. Quand on est sur le terrain, on doit s'intéresser à tout. On ne peut rien manquer. Tandis que, comme chercheur, on ne peut pas s'intéresser à tout. Et donc, on choisit une partie de ces données, on les développe, tout en laissant les données pour d'autres qui veulent explorer un aspect, par exemple, de la culture matérielle, les épaves, un domaine extrêmement riche et en pleine éclosion, où d'autres vont s'intéresser aux paysages boisés, d'autres encore vont s'intéresser à ces liens de navigation entre les différents ports. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Mais comme archéologue, comme tu disais, on doit s'intéresser, on doit cueillir toutes les données.
Toutes les données. Ouais. Il y avait Jean Chapelot qui disait lors d'un récent colloque qui était au mois de septembre 2007, il a dit « Il ne faut pas oublier, vous êtes archéologue, mais n'oubliez pas, vous êtes aussi historien. »
Oui,
voilà.
C'est bien dit.
Ce qui veut tout dire. Très bien, mais écoutez, on va se quitter. L'heure a passé.
Déjà,
et oui. Je te remercie, Brad, d'être venu. Là, ça fait toujours un très grand plaisir de t'avoir. C'est tellement rare. Vous savez, le Montréal, c'est très très loin de Paris, finalement.
Ou le contraire.
Oui, mais c'est peut-être plus difficile de faire une émission radio, d'autres radios, d'autres cultures là-bas. Merci Michel d'être venu et d'avoir répondu aussi gentiment. Et puis je te dis à bientôt, parce que tu dois nous parler de l'architecture navale anglaise du 17e, du 16e.
Oh,
mon Dieu, tout un programme. À bientôt tous les deux, je vous remercie. Ici,
au revoir.
Ici, autre radio, autre culture. À bientôt. Autre radio, autre culture.